Je suis Denis Chessou. Respirez un grand coup. Je vous propose une série de podcasts au cœur de nos forêts françaises, auprès de nos arbres, et vous y serez heureux. Pour cet épisode, direction la Manche, à la rencontre d'une arboriste, Karine Marcilly.
Alors, c'est très important de nettoyer sa scie. Déjà, ça permet de maintenir son outil de travail longtemps. On dégage bien tout ce qu'il y a dans les dents. Et surtout, moi je le fais parce que les arbres, il faut les respecter quand on leur enlève un élément. Et donc, le plus important, c'est d'être sûr de ne pas leur colporter un virus.
Et oui.
Les arbres sont très sensibles au virus. Donc, je m'en voudrais terriblement de les affecter au moment où on peut dire, entre guillemets, où je les opère.
Karine Marcilly vit dans la Manche, département peu boisé, en marge des marais du Cotentin et du Bessin. Village de l'Aunay, qui signifie l'aulne. Physique sec et musclé d'alpiniste, avec des qualités d'une arboriste, à savoir grimper et redescendre, être vigilante, assurer la sécurité, connaître la botanique des arbres, détecter les parasites, les maladies qui affaiblissent, savoir écouter un arbre, puis couper ce qui est juste nécessaire. Alors elle comprend hein, ceux qui grimpent aux arbres pour éviter leur abattage dans 50% des cas sans aucune raison, par facilité, parce qu'un arbre est très souvent un mobilier urbain qui embête. Karine Marcilly a écrit « Ma vie avec les arbres ».
Au départ, c'est comment peut-on sauver les arbres, parce qu'on est un peu choqué quelquefois d'intervention. Je trouvais que le terme entretien ne collait pas trop avec certaines tailles. Et je me suis dit, la meilleure manière de sauver des arbres, c'est finalement d'œuvrer soi-même.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous vous dites toujours, comment je peux faire pour qu'il aille mieux ?
Alors effectivement, on a la chance aujourd'hui d'avoir plein de recherches scientifiques en même temps qu'on pratique ce métier exceptionnel. Et ce qui nous permet de mettre en concordance ce que l'on pense comprendre dans les sciences et le mettre en pratique sur des êtres vivants extraordinaires, à qui on doit énormément de respect parce qu'on leur doit tout. Au fur et à mesure, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Plus j'en apprends, plus je m'aperçois que j'ai dû faire des erreurs. Et pourtant, j'ai toujours essayé d'être la plus consciencieuse et la plus réfléchie possible. Et au fur et à mesure, ce qui me passionne dans ce métier, c'est que je ne cesse de progresser dans la bonne pratique.
Et pour vous, la taille n'est pas une fin en soi ?
La taille, je dirais, est un accompagnement pour moi. Ouais. Permettre à l'arbre de pouvoir plus rapidement refermer ses plaies. Du coup, je n'interviens pas dans des périodes, on va dire, hivernales, contrairement à ce que beaucoup pensent. Les gens imaginent que, comme soi-disant les arbres n'ont pas de sève en hiver, c'est mieux de les couper à ce moment-là. Alors déjà, les arbres ont de la sève brute, c'est-à-dire de l'eau et des minéraux qui montent toute l'année, sinon ils seraient totalement secs à la fin de l'hiver.
Donc c'est ralenti ?
C'est pas forcément ralenti. La sève brute, celle qui alimente toutes les cellules en eau, monte cycliquement. Tous les 15 jours, on va dire, vous avez un bois très sec, et 15 jours après, vous avez de l'humidité constante dans le bois. Et ça, c'est comme les marées chez nous, ça monte et ça descend l'eau.
Mais alors là, Karine, on est donc face à votre noyer. Alors vous avez des scies, parce que j'ai l'impression que je n'ai pas trouvé de tronçonneuse avec vous. Hein.
Ah non, ça fait du bruit, ça pollue, et puis finalement, on déchiquette la plaie. Ouais. Et puis en plus, ça a tendance même à colporter des virus, la tronçonneuse. Ouais. Et puis je suis assez sensible des oreilles, et puis j'adore sentir au bout de mes doigts la résistance du bois. Et de savoir ainsi à qui j'ai affaire, et d'être beaucoup plus en conscience avec ce que j'opère sur l'individu, notamment ici sur le noyer.
Vous aimez les arbres ?
Ouais, je crois.
C'est moi qui l'ai planté.
J'en ai planté beaucoup ici. J'en ai fait plein.
Et celui-là, il est spécial. Peut-être idiot, mais j'y tiens beaucoup.
Ça se comprend.
Un garçon qui s'intéresse aux arbres, c'est forcément quelqu'un de bien.
Alors là, nous sommes face à ce noyer. Donc là, qu'est-ce qu'on va y faire? Parce qu'il est, il est un peu couché quand même déjà, hein, celui-là. Donc,
alors celui-là, oui. Alors, beaucoup le pensaient mort. Vous voyez, c'est pas parce qu'un arbre ne peut plus tenir debout. Alors, il avait des champignons qui s'appelaient des ganodermes qui lui ont mangé tout son système racinaire. Beaucoup de gens l'auraient abattu depuis longtemps. Moi, je savais qu'il allait tomber. J'ai attendu qu'il tombe. Et d'ailleurs, il a attendu que je rentre pour tomber, parce qu'il devait savoir que j'avais besoin de le voir partir. Donc, il m'a fait une belle révérence. Il a été sympa comme tout, il a endommagé aucun autre voisin, alors qu'on dit que le noyé a tendance à être un super compétiteur. Hein. Il sécrète une substance fongique pour empêcher les champignons de se fixer sur les racines de ses voisins. Et donc j'ai su comme ça qu'il allait partir, parce que j'ai vu les autres commencer à prendre un peu plus le pouvoir. Et puis j'ai acheté déjà ce lieu-là parce qu'il y avait ce noyer-là, donc il y a une grande affection entre nous.
Oui, vous avez acheté le lieu déjà en fonction de l'arbre.
Quand je l'ai découvert, je me suis dit « Oh, un vieil arbre comme ça, c'est magnifique !» En plus, il lui donne des noix, l'une de mes graines préférées. Donc,
voilà, il est couché, mais peu importe, en fait, il continue à vivre.
Exactement, il est tombé suite à une tempête en 2017, voilà, ça fait 4 ans qu'il est par terre, et du coup, je crois qu'il n'a jamais été aussi vert, je crois.
Alors là, vous allez faire quoi? Une petite taille derrière les oreilles? Qu'est-ce que vous
ben voilà, il a des bois morts, et tant qu'on laisse le bois mort sur place, le problème, c'est que le bourrelet que vous voyez là a des cellules qui vont se mettre à se multiplier à partir du moment où le bois n'y est plus.
D'accord.
Et tant que vous le laissez, il ne peut pas refermer ses plaies. Donc. Oui. On va couper ça de manière à ce que le bourrelet puisse se faire et que les pourritures n'entrent pas dans l'arbre.
Alors, muni de 3 scies différentes, en fonction du travail qui est à faire.
Alors, quand on coupe, on suit bien le bourrelet. Quand on passe son doigt, on sent bien quelque chose de particulier, une jonction. Et dans ces jonctions de compartiments entre... Parce que finalement, un arbre, c'est une multitude de compartiments imbriqués les uns dans les autres. Comme dirait le grand Francis Allais, c'est une colonie d'arbres, un arbre. Et donc, il faut vraiment lui enlever cette partie complète. Alors, par contre... Je lui laisse ses branches à proximité, ça lui sert de nourriture. Et donc, bien en limite de ce bourrelet. Alors, je taille là, on est en automne. Je taille très proche de l'équinoxe d'automne. Parce que le noyer a une spécificité, il n'est pas capable, lorsqu'on lui coupe des canaux de sève, d'arrêter l'écoulement de la sève. Il n'est pas capable de faire des sortes d'embolies dans les canaux de sève.
Ouais.
Et donc il peut se mettre à couler énormément. Donc il ne faut jamais tailler un noyer en hiver ou en été.
Ouais.
Il faut aussi que la... Alors j'avais entendu, moi, quand j'étais jeune, qu'il fallait que la respiration s'équilibre avec la photosynthèse. Mais je pense surtout, moi j'interviens là aujourd'hui parce qu'on est dans une lune descendante, c'est-à-dire que la lune se rapproche de notre horizon, et on est en lune décroissante, c'est-à-dire qu'on a passé la pleine lune il n'y a pas très longtemps, et là on est en phase où elle va redevenir nouvelle. Et donc là, comme on peut voir, il n'y a absolument aucun suintement de sève.
Ouais.
On serait intervenu il y a 4 jours, il se serait mis à couler.
Ouais.
Et le problème du noyer, c'est quand on le taille n'importe quand, on ne sait plus comment arrêter cette hémorragie, entre guillemets.
Balade à la lune. C'était dans la nuit prune, sur le clocher jauni, la lune, comme un point sur un i. Lune, quel esprit sombre promène au bout d'un fil. Ton profil.
Karine Marcy, donc parlons de cette lune qui est quand même extrêmement importante. Vous avez des scientifiques qui vous disent non, mais tout ça n'existe pas. Vous le constatez.
Ah, mais c'est primordial. Hein. Vous prenez le cas d'un résineux. Moi, comme je taille à la main, imaginez avec une lame de scie coupée un pain en lune montante et croissante, au bout de 5 minutes, votre outil ne couperait plus. Il serait rempli de sève. Et puis alors, vous serez très collant, hein, vous aurez de la résine partout. Et l'avantage, c'est que ça nous permet même de connaître à quel moment la marée va monter et la marée va descendre, quand on est au bord de la mer et qu'on n'a pas le calendrier des marées avec nous. Parce qu'on sait exactement quand est-ce que la marée va remonter. On voit apparaître des petites perles de sève.
Et donc c'est le même phénomène d'attraction donc de la Lune ou...
Effectivement, et des scientifiques qui le disent, c'est que la Lune, c'est le pacemaker de l'arbre. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut monter de l'eau à plus de 100 mètres, par exemple dans des eucalyptus, même en plein hiver? Parce que moi, quand je taille du bois en hiver, il y a des moments où le bois est très sec, mais il y a des moments où il est trempé. Ce n'est pas le phénomène de capillarité parce que, contrairement à ce qu'on pense, les canaux de sève qui alimentent l'arbre en eau sont beaucoup plus gros que ceux qui descendent de l'arbre et qui sont riches en sucre. Donc, c'est pas la finesse des tuyaux. Ça n'est pas un circuit fermé parce qu'elles sont dissociées. Ces deux canaux de sève ne sont pas reliés. Il n'y a pas de château d'eau à proximité. L'arbre n'a pas de pompe, n'a pas de cœur. Donc finalement, on s'aperçoit que quand même, cycliquement, tous les 27 jours, l'eau monte et puis après, elle redescend.
Alors depuis toute petite, vous aimez aussi beaucoup lire les formes des arbres. Je ne parle pas simplement d'étudier les cernes, mais c'est aussi toute la partie imaginaire qu'il y a derrière lorsque l'on voit un arbre.
Bien, de par son architecture, ce qui est formidable, c'est qu'on arrive à ressentir si déjà... il a eu des contraintes dans sa vie, s'il est épanoui, on arrive à connaître son caractère. S'il est dominant, on arrive à savoir s'il avait un potentiel au départ. Tout le monde n'a pas le même potentiel dans sa graine au départ. Et puis, cela crée une singularité pour chacun d'entre eux, qui est d'une variabilité exceptionnelle, je trouve. Ils sont d'une ingéniosité par rapport à leur milieu qui m'étonne toujours.
Comment ça s'est passé, vous, cet amour des arbres? Parce qu'en fait, vous êtes plutôt citadine à l'origine. Il y a eu une enfance du côté de Saint-Cloud, dans le 14e arrondissement. Alors après, quand même, si du côté de Jouy-en-Josas, là, nous sommes dans l'Essonne, lorsque vous étiez petite, vous alliez donc à l'école à 7 ans, puis vous deviez quand même traverser un petit bout de forêt. Ça vous plaisait?
Alors ça, c'était extraordinaire. Les parents, encore à l'époque, nous laissaient aller à l'école tout seuls, à pied.
Ils ne flippaient
pas, là. Et ils n'avaient pas peur. Et donc je me souviens, mon petit VTT et je traversais la forêt et ils avaient eu la bonne idée de mettre cette école en plein milieu de la forêt. Et pour moi, ça a été un souvenir extraordinaire de dire bonjour aux arbres et à l'aller et au retour pour apprendre à aimer apprendre.
Et puis les grands-parents en Haute-Savoie, nous sommes à côté de Chamonix, nous sommes à Servoz.
Alors imaginez aller en vacances, en montagne, quand vous êtes en région parisienne. Et alors je me souviendrai toujours, c'est les sous-bois, cette richesse de diversité de mousses. On cueillait des myrtilles, des fraises des bois.
Donc vous disiez attention, parce que le renard peut faire pipi dessus.
Ah oui, parce qu'en plus la maladie du renard, effectivement, vaut mieux pas... Vaut mieux pas l'ingérer.
Non.
Mais c'était un bel apprentissage. Mais je crois que malgré l'échinococcose, j'ai dû manger pas mal de fraises des bois.
Oui, bah ça va, vous êtes en forme.
Toute insouciance, oui.
Vous êtes passé au travers, en tout cas.
Ce reportage a été réalisé par Xavier Pestulgia avec Camille Blanès. On poursuit le voyage dans la Manche.
Ah, alors là aussi, on arrive du côté des animaux. Alors c'est très intéressant parce que je vois, c'est pas exactement des vaches qui ont l'accent normand ici, puisque ce sont des bazadaises. Donc salut à nos amis de Bazas. Donc là on est plutôt dans les Landes, me semble-t-il. Alors là j'ai un peu honte parce qu'en fait je peux pas aider Karine qui est en train de pousser donc sa brouette avec du foin, mais d'une qualité.
Des bottes, hein. Pas de roundballer, vraiment que des bottes à l'ancienne.
Ouais.
Comme ça, ça permet de distribuer à chacune de mes bêtes, à chacune de mes bazadaises, la quantité dont elles ont besoin. Parce que quand il y a des roundballers, il y en a trois qui se mettent devant et les autres ne peuvent pas manger.
Et alors c'est grâce à elles en fait, que vous avez pu garder un peu ces terres, parce que ce n'était pas ça le point de départ. Vous êtes arrivé là et puis vous vous êtes dit « Ah, j'ai envie de garder donc ces arbres-là qui sont beaux, ces chênes et tout ça ». Et vous n'avez pas pu le faire, parce que...
Eh bien non, parce que alors j'avais demandé à l'agriculteur qui, quand il a voulu mettre ses terres en vente, m'en a fait part. J'ai signé un compromis. Et là...
La SAFER est arrivée.
La SAFER est arrivée en me disant « Mais de quel droit vous vous permettez d'acheter de la terre agricole ?» J'aurais dit « Mais parce que je suis chef d'exploitation forestière. » Et là, on m'a répondu, mot pour mot, « Si vous saviez ce qu'on en a à faire de la forêt dans la Manche.
Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup.
Alors on a des haies, mais on n'a pas de forêt. Je me suis dit, ah, ben si c'est pour juste produire du lait en poudre pour les Chinois, non. On va pas aller loin avec cette terre-là.
Oui, parce que c'est quand même ça aussi. Une grosse production aujourd'hui de lait ici, en Normandie, pour, pour la Chine.
On a l'usine Lacte, Isigny-Sainte-Mère, qui appartient à 65%, je crois. Après, je dis peut-être un taux qui n'est pas bon, mais aux Chinois.
D'accord.
Et donc, on produit du lait pour eux. Et le problème, c'est que pour produire du lait, on sème beaucoup de maïs, alors que les vaches n'ont jamais été des poules. Et on abat toutes les haies qui protégeaient très bien nos territoires, qui engraissaient nos sols. Hein. S'il n'y avait pas eu tous ces arbres, on n'aurait pas la qualité d'herbage qu'on a aujourd'hui.
Ah bah, le bocage existe, parce que justement, ce sont des haies. Quoi.
Voilà. Je me suis aussi battue pour que je puisse garder l'ancêtre du bocage, c'est-à-dire ces chemins creux doublés de haies. Comme il n'y avait pas de bâtiment pour les animaux, à l'époque, on les mettait entre dans ces chemins creux. Et comme évidemment, l'hiver, il faisait pas mal de déjections dans ces endroits-là et la chute des feuilles agrémentait la litière, on remettait ça dans les champs et c'est ce qui fait la richesse de la Normandie aujourd'hui et qu'on est en train de tarir.
Hop, allez-y avec votre brouette.
Basadaises. Alors c'est sûr que ça ressemble pas à de la Holstein. Hein. Le
non,
cul est beaucoup plus rembourré, si je puis dire.
Vous êtes repérés là, hein. C'est bon là, elles arrivent sur nous.
Ah, voilà Norman. Alors Norman est mon premier bœuf qui est né ici. C'est le premier basadé né en Normandie, donc je l'appelais Norman.
Ah oui, Norman, bien sûr.
Bon, en plus, pour une éthique vétérinaire, il fallait lui donner un nom en N, donc ça tombait bien.
Bah, c'était bien. Alors là, elles ne me connaissent pas.
C'est
pour ça que...
On va leur mettre à manger.
On va leur mettre à manger quand même.
Alors, ma loulou, tiens.
Alors, donc, le point de départ, ça a été, je veux sauver donc, des arbres. Donc, je suis obligé d'acheter de la terre, plus que ce que j'avais prévu.
Voilà.
Et puis dessus, il fallait donc une activité agricole.
Et oui, donc il fallait que je puisse contrecarrer un projet laitier. Et aujourd'hui, la production de viande est un problème. Donc je me suis dit, il va falloir que je trouve une race de vaches, déjà qui me conviennent, hein, ça c'était primordial, et ensuite qui soit rustique, parce que moi je n'ai pas envie de mettre de gros bâtiments, non. Je n'ai pas envie de semer du maïs pour les nourrir.
Donc il faut qu'elles restent dehors quoi.
Il faut qu'elles restent dehors toute l'année, et il faut qu'elles aiment ne manger que du foin, et voyez... Ça ne les empêche pas d'être bien portantes.
Elles vont bien, là.
Et alors, l'avantage...
Que ah oui, directement, elle se sert dans la boîte, là. Elle sort la botte.
Quand
allez, hop, terminé.
Oui, ça va pas assez vite.
Oui, ça va pas assez vite. Oui, d'accord, c'est bon. Allez, hop. Un coup de tête, là. Il y a une petite mûre au passage. Hein.
Les abeilles... parce que j'ai une vingtaine de ruches derrière, les abeilles ont pu manger leur faim.
Donc, elles sont bonnes, les mûres. Et ce mariage animaux-forêt, bête et végétal, bah, ici va de soi. Quoi.
Mais nous sommes nés des arbres. Nous ne serions pas apparus s'il n'y avait pas eu le règne des arbres 400 millions d'années avant nous.
Alors là, le séquoia, pour vous, c'est le prince, quoi. Évidemment que c'est le plus grand. Bon, mais ça vient d'où, ça, alors?
Eh bien, je crois, lorsque j'étais à l'école des élagueurs, on me disait... Le séquoia est difficilement accessible parce que autant tous les résineux vont avoir des branches qui montent, regardez le cèdre là, qui monte vers le haut.
Ouais.
Effectivement, l'épicéa en Haute-Savoie, il a compris, il baisse les bras pour que la neige coule plus facilement. Mais le séquoia m'avait dit c'est terrible à grimper parce que c'est très gros. Puis en plus, les branches sont quasiment des toboggans. Et alors,
ça vous a plu.
Dans mes premiers grands patients que j'ai eus, ben, c'était un séquoia.
Ouais.
Qui d'ailleurs devait être abattu parce qu'il était estimé comme dangereux dans une cour d'école. Il avait été cassé sévèrement par la tempête en 99 et j'ai réussi à le sauver et à le faire classer comme arbre remarquable de mon département déjà. Ouais.
Et on va rappeler une petite chose, c'est que quand même Sequoia, on va saluer donc ce chef Cherokee qui avait ce nom-là, qui a donné ce nom à cet arbre.
Sequoia, voilà, qui était apparemment un indien allemand qui avait permis aux Anglais de repartir avec des graines de ces géants des forêts, qui a pu ainsi montrer aux Européens que les arbres géants, ça existait.
Votre forêt est magnifique.
Le vieux battant, c'est un surnom. C'est le surnom d'un ancêtre qui a installé une tradition. Parce que chez nous, dans notre famille, à chaque naissance, on plante un arbre pour l'enfant. Puis c'est une tradition qui s'est maintenue. Quels que soient les problèmes ou n'importe, ici, on n'a jamais touché un bout de cette parcelle.
Alors on voit aussi cet arbre superbe qui est donc le cèdre de l'Atlas. On se dit qu'il n'a strictement rien à faire en Normandie. Alors ça, vous êtes obligé évidemment de l'aider et de le tailler parce que en fait, c'est un arbre des pays secs. Et puis alors ici, il trouve tout ce qu'il veut. Il y a des minéraux, il y a de l'eau, donc il doit croître je ne sais pas quoi, deux fois, trois fois plus vite.
Exactement. Bah, et puis en plus, c'est enrichi en CO2 dans notre atmosphère aujourd'hui.
Oui.
Donc comme les arbres adorent ça, bah, ils mangent à outrance, ils sont comme nous, ils deviennent obèses.
Ils s'alourdissent.
Ils s'alourdissent et ils ont tendance à croître plus que ce qu'ils avaient l'habitude de supporter dans leur texture de bois, donc ils cassent. Donc c'est vrai que selon ces essences-là qui n'étaient pas du tout alimentées de cette manière-là, on est amené à faire de l'allègement pour éviter que les branches, les charpentières se déchirent le long des trous. Voilà, celle-là, elle avait combien de cernes? Pas mal, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une branche de 30 ans,
ouais,
qui a séché, hop, dont il n'a plus besoin. Je me permets de lui enlever.
Karine, qu'est-ce qu'ils vous apprennent, ces arbres?
Le fait que dans la vie, il ne faut pas désespérer, on peut toujours rebondir. Les arbres ont une aptitude, à partir du moment où on prend soin d'eux, à reprendre de la motivation à survivre. En plus, ils vous apprennent à vous surpasser, parce que quelquefois, on se dit « je ne vais jamais y arriver ». Et en fait, on peut toujours tout faire dans un arbre. On peut aller absolument partout dans un arbre, à partir du moment où on apprend à l'observer. Et puis ils m'apprennent évidemment là, je viens de couper du bois donc je suis un peu mais ils m'apprennent à avoir une qualité de vie extraordinaire et à me respecter avant tout en les respectant. C'est un vrai bonheur de repasser devant chacun d'entre eux et c'est comme si vous saluez quand on voit qu'ils s'embellissent après votre passage et que même des années après ils vous disent encore merci. Je trouve qu'il n'y a pas plus reconnaissant comme ami.
C'est la fin de ces moments volés dans les arbres, mais vous pouvez poursuivre l'écoute d'Auprès de nos arbres. C'est une série en 5 épisodes.